Chapitre 17. Enfin au port. Le jour se montra avant que les divers habitants du désert fussent rentrés chez eux, que la police eût terminé ses recherches et que tout fût rentré dans le calme habituel. On avait laissé Mistress Westmacott dormant paisiblement. Grâce à une légère dose de chloral, administrée pour lui calmer les nerfs, et ayant autour de la tête un foulard imbibé d'arnica. Ce ne fut donc pas sans une certaine surprise que l'amiral reçut, vers 10 heures, un billet d'elle, où elle le priait de vouloir bien venir la voir. Il accourut, craignant que son état ne se fût empiré, mais il fut rassuré en la voyant assise sur son lit, avec Clara et Ida s'empressant autour d'elle. Mistress Westmacott avait ôté le foulard, s'était coiffée d'une petite casquette à ruban rouge et s'était vêtue d'une jaquette marron, coquettement ornée de passementerie, au collet et aux manches. « Mon cher ami, dit-elle quand il fut entré, j'ai quelques remarques suprêmes à vous faire. »« Non, non, fit-elle en riant de la figure découragée qu'il prit. « Je ne songe point du tout à mourir d'ici à au moins 30 ans. » Une femme devrait rougir de mourir avant 70 ans. Clara, je voudrais que vous demandiez à votre père de monter. Et vous, Ida, passez-moi mes cigarettes et débouchez-moi une bouteille de stout. Voyons maintenant, reprit-elle quand le docteur compléta la réunion. Je ne sais pas au juste ce que je devrais vous dire, amiral. Vous avez besoin qu'on vous parle carrément. Sur ma parole, madame, je ne sais à quoi vous faites allusion. En voilà une idée, reprendre la mer à votre âge et abandonner à la maison cette excellente petite femme qui ne vous a jamais eu près d'elle de toute sa vie. Pour vous, pas encore. Vous avez la vie avec ses changements, avec ses émotions, mais vous oubliez qu'elle restera se ronger le cœur dans un terrible logement de Londres. Vous autres hommes, vous êtes tous les mêmes. Eh bien, madame, puisque vous en savez aussi long, vous savez sans doute que j'ai vendu ma pension. De quoi vivrai-je si je ne me trouve pas quelque travail ? Mistress Westmacott tira de dessous les draps une grande enveloppe qu'elle jeta au vieux marin. Cette excuse n'en est pas une. Voici vos titres de pension. Assurez-vous qu'ils sont au complet. Il brisa le cachet et de l'enveloppe tombèrent des papiers, ceux-là même qu'il avait confiés à Macadam 2 jours auparavant. Mais qu'est-ce que je peux en faire maintenant ? S'écria-t-il tout abasourdi. Mettez-les en lieu sûr ou chargez un ami de le faire. Puis, si vous faites votre devoir, allez trouver votre femme et demandez-lui pardon d'avoir eu un seul instant l'idée de la quitter. L'amiral passa la main sur son front ridé. C'est très beau de votre part, madame, dit-il. C'est très beau, très bien, et je sais que vous êtes une amie à toute épreuve, mais, en définitive, ces papiers représentent de l'argent, et bien que nous nous soyons trouvés ces derniers temps dans de mauvais parages, nous ne sommes pas dans une situation tellement serrée qu'il nous faille faire des signaux à nos amis. Quand nous y serons, madame, il n'y aura personne à qui nous ayons recours plutôt qu'à vous. Ne soyez pas ridicule, dit la veuve, vous ne savez pas un mot de la réalité, et voilà que vous argumentez sur la loi. J'entends régler la chose à mon gré et vous reprendrez les papiers, car ce n'est point une faveur que je vous fais. Je me borne à restituer de l'argent volé. Comment cela, madame ? J'allais justement vous expliquer cela, quoique vous puissiez bien croire une dame sur parole, sans faire de questions. Maintenant, ce que je vais vous dire doit rester entre nous quatre et ne pas aller plus loin. J'ai mes raisons pour tenir la police en dehors de cela. « Quel est, dites-moi, amiral, le gredin qui m'a frappé la dernière nuit ?»« Quelque bandit, madame, je ne sais pas son nom. »« Moi, je le sais, c'était le même qui a ruiné ou voulu ruiner votre fils. C'était mon frère unique, Jérémy. »« Ah ! Je vais vous parler de lui, ou plutôt vous en dire quelques mots, car il a fait maintes choses que je ne tiens pas plus à raconter que vous ne tenez à les entendre. » Il a toujours été un coquin à la langue mielleuse, aux propos agréables, mais malgré tout, un coquin dangereux et subtil. Si j'ai eu quelques opinions pessimistes à l'égard des hommes, je peux les faire remonter à mes jours d'enfance passés avec lui. C'est mon seul parent vivant, car mon autre frère, le père de Charles, a été tué dans la révolte de l'Inde. Notre père était riche et, avant de mourir, il nous laissa une belle fortune à Jérémy et à moi. Il connaissait Jérémy et n'avait pas confiance en lui. Aussi, au lieu de lui donner toute la somme qui lui destinait, il m'en remit une partie, en me chargeant, presque au moment de rendre l'âme, de garder cela en dépôt pour mon frère et de l'employer dans son intérêt quand il aurait gaspillé ou perdu tout ce qu'il avait. Cet arrangement devait rester un secret entre mon père et moi, mais malheureusement, ses paroles furent surprises par la garde malade, qui les répéta plus tard à mon frère. Il apprit ainsi que j'avais quelque argent en dépôt pour lui. « Je suppose que le tabac ne me fera pas de mal à la tête, docteur. Merci. Alors, Ida, je vous demanderai des allumettes. » Elle alluma une cigarette et se renversa sur l'oreiller, les spirales montant de ses lèvres. Je ne saurais vous dire combien de fois il a tenté de m'arracher cet argent. Il a employé les menaces, les cajoleries, les flatteries. Il a fait tout ce qu'un homme est capable de faire. Quand j'ai appris cette canaillerie et comment il avait fui, laissant son associé faire face à l'orage, et surtout quand j'ai vu mon vieil ami réduit à se dépouiller de sa pension pour combler le déficit causé par mon frère, j'ai senti que c'était le moment opportun d'en faire usage. J'ai envoyé hier Charles chez Mr. McAdam, et son client, après avoir entendu les détails de l'affaire, a consenti avec le plus grand empressement à rendre les papiers et à reprendre l'argent qu'il avait avancé. Ne dites pas un mot pour me remercier, amiral. C'était un service rendu à bon compte, puisque c'est l'argent du voleur qui en a fait tous les frais. Pouvais-je en faire un meilleur emploi? Je m'attendais à recevoir bientôt de ses nouvelles, et j'en ai reçu. Hier soir, il m'est arrivé une lettre écrite dans son genre coutumier, une lettre de pleurnicherie, de platitude. Il était revenu de l'étranger au péril de sa vie et de sa liberté, rien que dans l'intention de dire adieu à l'unique sœur qui lui resta, et pour me demander pardon de toutes les peines qu'il m'avait causées. Il ne me dérangerait jamais plus. Il me priait seulement de lui remettre la somme que j'avais en dépôt pour lui. Cette somme, jointe à ce qu'il avait déjà, suffirait pour lui permettre de débuter en honnête homme dans le Nouveau Monde, où il se souviendrait toujours de son excellente sœur et prierait pour elle qu'il avait sauvée. Tel était le style de la lettre. Il finissait en me suppliant de laisser la fenêtre entr'ouverte et de me trouver dans la pièce de devant, où il viendrait m'embrasser pour la dernière fois et me dire adieu. Si méchant qu'il se fût montré à mon égard, je ne pouvais le dénoncer puisqu'il se fiait à moi. Je ne répondis pas, mais je vins à l'heure dite. Il entra par la fenêtre et me supplia de lui donner l'argent. Il était horriblement changé. Il était devenu efflanqué, il avait l'air d'un loup et tenait le langage d'un fou furieux. Je lui dis que j'avais dépensé l'argent. Il me regarda en grinçant des dents et jura que cet argent lui appartenait. Je lui dis que je l'avais dépensé à son compte. Il me demanda comment. Je répondis que c'était en tâchant de le rendre honnête homme et en réparant les malheurs causés par son acte infâme. Il hurla une malédiction et, tirant de son habit un objet, un bâton plombé, je crois, il m'en frappa et je ne me rappelle rien de plus. « Le bandit !» s'écria le docteur, « mais il doit avoir la police sur ses talons !»« Je ne le crois guère, » dit tranquillement Mistress Westmacott. Comme mon frère est un homme remarquablement grand et mince, et que la police recherche un petit homme gras, je crois qu'il n'y a pas grande probabilité pour qu'on l'attrape. À mon avis, il est préférable que ces petites affaires de famille soient arrangées en particulier. « Ma chère madame, dit l'amiral, si c'est vraiment l'argent de cet homme qui m'a rendu ma pension, alors je n'éprouve aucun scrupule à le reprendre. Vous nous avez ramené le beau temps, madame, alors que les nuages étaient les plus sombres, car voici que mon garçon insistait pour rendre l'argent que j'ai reçu. Désormais, il peut le garder pour payer ses dettes. Pour tout ce que vous avez fait pour nous, tout ce que je puis faire, c'est de demander à Dieu de vous bénir. Quant à vous dire ma reconnaissance, je ne peux que... » Alors, n'essayez pas, dit la veuve. Maintenant, partez, amiral. Allez vite faire votre paix avec Mistress Denver. Si j'étais à sa place, il est certain qu'il se passerait longtemps avant que je vous pardonne. Quant à moi, je partirai pour l'Amérique en même temps que Charles. Vous m'emmènerez jusque-là, Ida, n'est-ce pas? On est en train de construire à Denver un collège où on pourvoit à la femme de tout ce qu'il lui faut dans la lutte pour l'existence et en particulier dans la bataille contre l'homme. Il y a quelques mois, le comité m'a offert un emploi important dans le personnel et maintenant, j'ai décidé d'accepter car le mariage de Charles tranche le dernier lien qui me rattachait à l'Angleterre. Vous m'écrirez de temps en temps, mes amis, et vous adresserez vos lettres à Mistress Westmacott, professeur au Collège Émancipation, Denver. De là, j'assisterai aux brillantes péripéties de la bataille qui se livrera dans la vieille et conservatrice Angleterre, et si le besoin s'en fait sentir, je reviendrai me placer au premier rang dans la mêlée. Bonjour. Mais vous autres, jeunes filles, restez, il y a encore quelque chose que je tiens à vous dire. Donnez-moi votre main, Ida, et la vôtre, Clara, dit-elle quand elles furent seules. Oh, malicieuse petite chatte, est-ce que vous n'avez pas honte de me regarder en face? Croyez-vous, avez-vous réellement cru que j'étais aveugle à ce point de ne pas voir clair dans votre petit complot? C'était très bien combiné, je dois le reconnaître, et au fond, je vous préfère tel que vous êtes. Mais vous vous êtes donné toute cette peine inutilement, car je vous en donne ma parole, j'étais parfaitement résolue à ne point l'agréer. Ainsi donc, au bout de quelques semaines, nos petites vieilles dames virent de leur observatoire un remue-ménage considérable se produire au désert. Des voitures à deux chevaux arrivèrent, conduites par des cochers enrubannés, pour emmener les couples qui s'apprêtaient à être unis. Et elles-mêmes, en leur robe de soie qui faisait frou-frou, elles eurent à traverser la route en qualité d'invitées au grand déjeuner des deux mariages qui eut lieu chez le docteur Walker. On y porta des santés, on rit, on changea de toilette, on jeta des bonbons quand les voitures repartirent, et deux couples nouveaux se mirent en route pour le voyage qui ne se termine qu'avec la vie elle-même. Maintenant, Charles Westmacott est devenu un ranchero qui prospère dans le Texas occidental. Lui et sa charmante petite femme sont les personnages les plus populaires de leur comté. Pour leur tante, ils la voient rarement, mais de temps à autre, ils trouvent dans les journaux des articles apprenant au monde qu'il existe à Denver un puissant foyer de lumière où l'on forge des foudres puissantes qui obligeront un jour le sexe fort à se mettre à genoux. L'amiral et sa femme habitent toujours au numéro 1, Harold et Clara se sont installés au numéro 2, où le docteur Walker continue à résider. Quant à la banque, elle a été remise à flot. L'énergie et les talents du jeune associé ont eu bientôt raison du dommage causé par son ancien. Mais grâce à l'atmosphère douce et distinguée qui l'entoure, il est en mesure de réaliser son désir et de se maintenir supérieur aux visées sordides et aux basses ambitions, ces causes qui contribuent tant à faire déchoir l'homme dont l'intérêt s'attache trop exclusivement au marché de l'argent de la vaste Babylone. Comme il revient tous les soirs des cohues de Throgmorton Street aux paisibles avenues bordées d'arbres de Norwood, il a ainsi prouvé qu'il est possible de s'acquitter de sa tâche au milieu de la babélique cité, tout en vivant d'esprit hors de ses confins. Fin.